chers auditeurs, au micro Catherine Mann pour l'émission Chemin de foi, qui vient vous inviter à cheminer à la suite de quelques grands témoins de la spiritualité chrétienne. Nous allons accompagner cette fois Benoît-Joseph Labre, un saint atypique qui va nous entraîner dans un long et difficile pèlerinage à travers l'Europe du XVIIIe siècle. Lors de notre précédente émission, nous avions laissé saint Benoît Labre de passage à Turin, où il fut accueilli à l'hospice. On lui avait donné un lit, mais à son habitude, il préféra dormir sur les pavés à côté du lit. Par ascèse, certainement, mais aussi par scrupule, parce qu'il était couvert de vermine et qu'il ne voulait pas contaminer le mobilier. De toute façon, il reprendra tout de suite la route et ses pas vont à présent le ramener vers la France. Il y a des traces de son passage à Mèche, en Franche-Comté, en décembre 1774. Un jour, comme il longeait la Saône, il vit un enfant qui se noyait. Alors il se jeta à l'eau, sans même réfléchir qu'il ne savait pas nager. En s'accrochant aux branches, il réussit quand même à ramener l'enfant sur la berge. L'enfant était inanimé. Il prit donc l'enfant sur ses épaules et le porta jusqu'à la maison la plus proche, qui, heureusement, était celle des parents. L'enfant se réveilla et, grâce à des soins rapides, il se rétablit. Alors, les parents demandèrent à Benoît d'aller faire pour eux une neuvaine au Saint-Suaire de Besançon. Donc, voilà, saint Benoît Labre reprend aussitôt la route pour Besançon. Et après avoir terminé sa mission, il continue son chemin vers Baume-les-Dames, puis Saint-Claude, pour aller en Suisse, cette fois, adorer la Vierge à Einsiedeln. On sait qu'il fit trois fois ce pèlerinage à Einsiedeln, mais rien ne précise exactement à quelle date. Mais on sait surtout que Benoît aimait aller prier la Vierge en tous ses sanctuaires. Et celle-ci était réputée pour de nombreux miracles et elle attirait de grandes foules de pèlerins dont il aimait faire partie. Après ça, de là, il décide de se rendre plus loin en Allemagne. Il devait bien sûr toujours avoir un passeport qu'il faisait viser régulièrement. D'ailleurs, sur ce passeport, on peut trouver au dos cette inscription du 11 février 1775. Nous recommandons d'une manière particulière le porteur Benoît Labre qui va ad limina apostolorum. Après avoir pris les informations convenables, nous le tenons et attestons pour bon catholique et nous invitons tous et chacun à le reconnaître pour tel et de l'aider dans son pieux dessein avec zèle et bénignité, bon pour 6 mois. Voilà, donc on voit qu'il avait quand même une assez bonne réputation. Et cette annotation nous précise en fait que le but du pèlerinage de Benoît devait toujours être Rome et le tombeau des saints apôtres Pierre et Paul. Mais le voilà en chemin vers l'Allemagne. Et il doit donc obtenir un autre passeport, ce qui fut fait début avril. Et voilà donc saint Benoît marchant cette fois à travers la forêt noire, traversant des contrées protestantes, mais de ce passage, on ne connaît rien. On a une trace de son passage à Koblenz, mais rien de plus. On ne sait pas jusqu'où il a marché. Tout ce dont on peut être certain, toujours d'après son passeport, c'est qu'il revient ensuite dans le canton de Saint-Gall, en Suisse, qu'il passe de là à Eggensville le 13 mai, à Wattville le 22, et que le 28 juin, il sera à Lucerne. Puis, en juillet, il revient à Einsiedeln, au sanctuaire marial, ensuite à Sargan, dans le canton de Saint-Gall. Son parcours semble dessiner toujours de curieux zigzags dont nous ne connaîtrons jamais les motivations. Toujours est-il qu'il redescend maintenant vers l'Italie, où on le voit à Milan le 24 juillet, et enfin à Rome pour l'automne 1775. Il y restera, mais seulement jusqu'à la fin de l'année, parce que dès le 12 février 1776, on le retrouvera au sanctuaire marial de Lorette, d'où il regagnera de nouveau celui de Einsiedeln en Suisse, ce qui semble correspondre à son troisième et dernier pèlerinage en ce lieu, donc en juillet 1776. Et de là, enfin, il reprit la route de Rome, où en principe il se fixera cette fois définitivement. Donc on peut dire que de 1777 jusqu'à sa mort en 1783. Il retrouve immédiatement ses habitudes à Rome, hein, en habitant dans une niche du Colisée, en se tenant pour prier le plus souvent à l'église Notre-Dame-des-Monts toute la journée, et le reste du temps, quand même, en marchant dans Rome au gré de son inspiration. Il semble pourtant que quelque chose en lui a changé depuis son dernier séjour à Rome. On le trouve plus serein, plus paisible. Ses prières sont beaucoup moins démonstratives. Et s'il attire toujours autant l'attention, c'est surtout par son invraisemblable accoutrement, fait d'un mélange de haillons recouverts d'une étrange redingote et d'un chapeau qui n'avait plus aucune forme, le tout avec une saleté qui faisait peur. Il était toujours chahuté par les enfants, moqué et même parfois battu par des bandes de voyous, mais cela n'entamait nullement sa tranquillité, et son visage restait souriant sous les outrages, comme s'ils étaient naturels. Il les prenait simplement, comme il le disait lui-même, comme une bonne occasion d'obéir au commandement du Christ: aimez vos ennemis, bénissez-les, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà, c'était un exercice. Il n'y avait bien sûr quand même pas que des gens hostiles à son égard, il y avait aussi de nombreux admirateurs, souvent des gens très pieux et des pèlerins qui admiraient la foi de ce mendiant. Mais malheureusement, ceux-là s'inquiétaient pour lui et souhaitaient l'aider par des dons ou lui proposer un toit, un hébergement confortable, un adoucissement de sa vie. Et tous ces gens-là, Benoît Labre les fuyait. Il craignait avant tout la charité à son égard, il la trouvait toujours excessive, voire inutile. Il n'avait besoin de rien, la providence de Dieu lui suffisait. Et si parfois il acceptait l'aumône, c'était la plupart du temps pour aller la redistribuer aux vrais nécessiteux, parce que sa joie, Benoît Labre la trouvait dans le plus complet dénuement, et rien ne pouvait plus le satisfaire que d'arriver à supporter encore plus de privations, de réussir à endurer des conditions de vie encore plus dures et de dépasser les limites que lui imposait son corps.
Spend
Benoît-Joseph Labre était un jeune homme paradoxal. Il voulait vivre de mendicité, mais il supportait difficilement les aumônes, sauf s'il pouvait en faire bénéficier quelqu'un d'autre. Il voulait vivre uniquement pour Dieu et tout attendre de sa providence, mais en fait, il n'attend presque rien, car il considère qu'il a déjà reçu tout ce qui lui est nécessaire. Il mène une vie tellement rude qu'elle peut sembler effrayante à ceux dont il croise la route, et pourtant, son visage reflète une joie et une paix intérieure que certains remarquent au-delà de son apparence de mendiant pitoyable. Il ne peut s'empêcher d'irradier la bonté et la douceur, tellement qu'une dame, une certaine Marie-Catherine Donati, vénitienne en pèlerinage à Rome, dira de lui, quand elle le rencontra, qu'il avait une face de paradis. Mais il avait pourtant une chose en horreur, c'était d'entendre qu'on disait de lui que c'était un saint. Et malgré cela, bien qu'il vive à Rome la vie normale des innombrables miséreux, il n'arrivait pas totalement à leur ressembler, et on voyait dans lui un saint, quelque chose de spécial qui intriguait. Mais alors, dès qu'on s'intéressait à lui d'un peu trop près, et surtout quand on se mettait à lui poser des questions, Benoît Labre devenait muet et fuyait le plus loin possible, aussi vite qu'il pouvait. À quelques exceptions près quand même. Par exemple, il se lia d'amitié avec un notable persan, Georges Zitli, qui avait été trésorier du Shah de Perse et s'était converti à la religion catholique. Donc il voyageait beaucoup et venait souvent à Rome. Un jour, il faut dire que c'était un vieux monsieur, il avait 88 ans à ce moment-là, et près de Rome, il rencontra Benoît Labre en chemin vers son pèlerinage annuel à Lorette. Il y allait chaque année entre Pâques et Pentecôte. Et Georges Zitli le trouva immobile devant la porte d'une auberge. Et il ne montra aucun des signes habituels de la pitié charitable. Il lui dit simplement qu'il serait heureux de partager avec lui son repas s'il voulait bien l'accepter. Et alors, étonnamment, Benoît accepta. Et ils purent entrer donc dans l'auberge, manger ensemble et longuement parler. Parce que ce n'était pas un de ses habituels interrogatoires auxquels il refusait de répondre. Georges Zitli lui parla de sa propre vie. Et en échange, Benoît Labre lui raconta sans réserve la sienne. Ils nouèrent ainsi une amitié toute naturelle. Et quand ils se quittèrent, Zitli demanda à Benoît de faire pour lui une prière, tandis qu'en échange, lui-même irait en dire une à Saint-Pierre de Rome pour Benoît. Par la suite, les deux hommes se croisèrent assez régulièrement dans Rome, au gré de leurs promenades respectives. Et Georges Zitli tenta parfois, avec le plus grand tact, d'inviter Benoît Labre chez lui et de l'aider matériellement. Ah, mais là, non, là se trouvait la limite, Benoît refusa toujours en s'excusant et en expliquant surtout qu'il ne manquait de rien, qu'il avait tout ce dont il pouvait avoir besoin. Leur amitié continua donc de se vivre dans la rue, où ils s'arrêtaient de temps en temps pour bavarder. Et le plus dur fut pour Zitli d'accepter de voir Benoît ramasser des trognons de choux ou d'autres déchets pour se nourrir, alors qu'il aurait tellement voulu lui offrir une nourriture saine. Mais il eut toujours la délicatesse de respecter les privations que Benoît s'imposait, et c'est à ce prix seulement qu'il put conserver sa confiance. Il y avait cependant d'autres personnes avec qui Benoît Labre s'entretenait à intervalles réguliers, c'était ses confesseurs. Dès son deuxième séjour à Rome en 1772, donc, Benoît avait choisi pour confesseur et directeur spirituel le père Gabrini, un grand intellectuel, helléniste, philologue et philosophe, qui exerçait son ministère à l'église Saint-Vincent et Anastase. Rappelons-nous que, depuis son enfance, Saint-Benoît Labre considérait l'obéissance comme une des grandes vertus chrétiennes et semblait toujours docile à ses directeurs spirituels. Je dis semblait parce que cela ne l'empêcha jamais de suivre son propre chemin de foi avec obstination, malgré toutes les injonctions de ses confesseurs. Dès le début, d'ailleurs, à Rome, le père Gabrini dit à Benoît qu'il était jeune et qu'il devait donc arrêter de vivre de mendicité et plutôt se chercher un travail pour gagner sa vie. Dans un premier temps, Benoît lui obéit et alla se présenter pour de petits emplois. Mais chaque fois, bien sûr, il se fit refouler, car on le jugeait trop faible, mais surtout beaucoup trop sale. Il retourna donc voir le père Gabrini et tenta de lui expliquer que sa vraie vocation était de vivre dans le dénuement le plus absolu et d'ignorer les soucis de la vie ordinaire. Alors, décontenancé, le père Gabrini objecta qu'il lui suffisait de prendre mieux soin de lui et de se rendre plus présentable pour ne plus faire peur à de potentiels employeurs. Mais le problème était pour Benoît qu'il voulait une preuve que cela faisait bien partie des obligations chrétiennes et que l'on pouvait les trouver dans l'enseignement du Christ. Et malheureusement pour le père Gabrini, Benoît objectait qu'il comprenait plutôt l'inverse, car son apparence repoussante lui permettait de se faire persécuter et que cela lui donnait ainsi l'occasion d'obéir au Christ en s'exerçant à bénir ses persécuteurs. Et puis, où trouver dans les évangiles l'obligation d'être propre et bien intégré à la vie sociale? N'y lit-on pas plutôt des encouragements au renoncement à soi-même, à la patience dans les épreuves et à une souffrance consentie pour l'amour de Dieu? Difficile de le contredire. Alors le père Gabrini chercha à mieux comprendre Benoît-Joseph Labre, tenta dans un premier temps de trouver des failles dans ses raisonnements ou des déviances spirituelles. Mais comme il n'en trouva pas, il finit par lui conseiller de se chercher un autre confesseur. Et Benoît fit alors régulièrement donc, le chemin vers le sanctuaire de Lorette pour y retrouver le père Temple, à qui il avait déjà eu affaire lors de ses nombreux pèlerinages à la Santa Casa. C'était le responsable de l'accueil des Français. Leur premier contact avait pourtant été plutôt mauvais, car le père Temple s'était méfié de ce vagabond, le soupçonnant d'être un menteur, un affabulateur. En février 1776, saint Benoît Labre va rencontrer à nouveau le père Temple au sanctuaire de Lorette, mais les relations restent d'abord difficiles. On a retrouvé dans les notes du père Temple cette indication en face du nom de Benoît Labre, suspect au plus haut point d'un grand mépris de lui-même. Quelle réflexion intéressante! Elle nous oblige à nous souvenir de l'injonction biblique « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui sous-entend qu'il faut aussi donc s'aimer soi-même. Est-ce que Benoît Labre était en train de se mutiler, de se détruire volontairement parce qu'il souffrait en fait d'un terrible problème psychologique ou qu'il avait mal interprété les Écritures? Ou au contraire, son chemin de vie doit-il être pour nous l'occasion de réfléchir sur le vrai sens de l'amour de soi? C'est en tout cas ce qui se passe pour le Père Temple. Il va se mettre à scruter méthodiquement la vie de Benoît Labre, depuis les plus petits événements de sa vie concrète jusqu'aux plus grandes profondeurs de son âme. Et sa méfiance se transformera très rapidement en admiration inconditionnelle pour les vertus éminentes, selon sa propre expression, qui se cachent derrière les apparents déséquilibres de la vie de Benoît. Il nous fait nous souvenir que la meilleure façon de s'aimer soi-même est de révéler l'image de Dieu inscrite en nous et d'aimer avant tout ce qui nous rend semblables à Dieu à notre mesure et selon notre vocation propre. Et Benoît a eu très tôt la certitude de sa vocation, qu'il a su défendre contre tous les obstacles, de toutes les oppositions de tous ordres. Et dans cette vocation, il y avait le désir d'être comme le Christ, humilié, anéanti et ignoré. Ce que certains pouvaient juger de l'extérieur comme des souffrances que Benoît s'infligeait pathologiquement, pour lui, au contraire, c'était une source de grande joie et de communion spirituelle avec le Christ. Il avait librement choisi ce genre de vie de pauvre parmi les pauvres, et il était profondément heureux. Le seul problème pour lui, c'est que le Père Temple, de plus en plus émerveillé en découvrant l'âme de Benoît Labre, ne tarissait plus d'éloges et disait qu'à ses yeux, Benoît était un ange, un être séraphique. Alors bien sûr, vous devinez l'inéluctable réaction de Benoît dès qu'il commença à prendre conscience de cette opinion trop favorable du Père Temple. Il s'enfuit et désormais fera tout pour éviter de le rencontrer, même s'il revint encore chaque année faire un pèlerinage à Lorette. Là s'arrête la relation. Une fois revenu à Rome, Benoît fit encore plus d'efforts, du coup, pour se confondre avec la masse des vagabonds, avec le comportement normal attendu des mendiants, pour disparaître parmi les nécessiteux. Il chercha à ne plus éveiller l'attention sur lui et à se faire oublier. Non sans mal. Un jour, un abbé lui avait fait l'aumône et puis voulut lui saisir la main pour la baiser. Benoît retira sa main avec brusquerie et s'énerva en disant « Je ne suis qu'un vagabond !» Le prêtre rétorqua qu'il honorait ainsi le Christ en son pauvre. Mais Benoît n'accepta absolument pas cette vénération. Il exigeait de rester simplement ce qu'il était, en toute liberté et sans commentaire. Et il continua de passer ses journées entre déambulation dans Rome et prière dans les églises, en essayant de passer inaperçu. Malheureusement, sa santé continuait de se dégrader. Et cela suffisait à attirer l'attention sur lui, car ses souffrances devenaient horriblement visibles. Il avait des plaies aux jambes, il était d'une telle évidente fragilité, tellement pâle et maigre qu'il faisait pitié. On lui proposait régulièrement des hébergements pour se mettre un peu à l'abri, soit chez des habitants, soit à l'hospice. Et enfin, de plus en plus souvent, il finit par les accepter, mais avec prudence, pour préserver son indépendance. Ses plaies aux jambes s'aggravaient, et Benoît dut se résoudre à prier souvent debout, quand il ne pouvait plus supporter de se mettre à genoux. Il priait en s'appuyant sur son bâton. Alors, Autour de lui, de plus en plus de gens s'inquiétaient et l'entouraient de leur amitié, mais la maladie gagnait du terrain. Maintenant, Benoît toussait jour et nuit. Et, comme vous l'imaginez, tout son système digestif était détraqué. Il refusait pourtant toujours de se laisser soigner et il continuait ses déambulations dans Rome, plus lentement et en s'asseyant quelquefois, mais rien ne pouvait l'empêcher de marcher. On le vit parfois même accepter un peu de nourriture et même un verre de vin, simplement pour qu'il puisse retrouver la force de rejoindre son hospice pour la nuit. Plusieurs fois, on le vit tomber et se relever de plus en plus difficilement. Et le 16 avril 1783, un mercredi de la Semaine Sainte, après qu'il eut prié toute la journée à Notre-Dame-des-Monts, Benoît se sentit mal et dut sortir. Mais dès qu'il fut sur les marches du parvis de l'église, il s'effondra. Alors tout le monde s'empressa autour de lui. On voulut le conduire à l'hôpital, mais bien sûr, Benoît refusait. Il demandait seulement un peu d'eau. Il disait que c'était beaucoup d'agitation pour rien. Mais en fait, il n'arrivait plus à se relever. Alors un de ses fidèles amis, un certain boucher, Zaccarelli, lui proposa de l'emmener chez lui. Et ça, Benoît accepta. Il accepta son hospitalité et on le transporta jusqu'à la maison du boucher. On le porta au premier étage et on le coucha sur un lit. On lui demanda ce qu'il désirait. Il répondit « Rien, rien ». Puis on appela quand même un prêtre à son chevet. Et quand celui-ci lui demanda depuis combien de temps il avait communié, Benoît répondit encore « Peu, peu ». Et ce furent là ses dernières paroles. C'est presque inconscient que Benoît reçoit l'extrême onction. Il entre alors doucement en agonie et meurt en début de soirée vers 20 heures. Benoît venait donc de s'éteindre à l'âge de 35 ans, complètement usé par une vie d'ascèse extrême, par environ 30 000 kilomètres de pèlerinage à pied à travers l'Europe. On pourrait croire que cette histoire s'arrête là, que l'événement allait passer inaperçu, car qu'est-ce que la mort d'un mendiant à Rome où ils étaient innombrables autour des églises et des hospices. Et pourtant, les choses allaient se passer tout autrement. Mais nous verrons cela lors de notre prochaine émission, car il est maintenant l'heure de nous quitter. Je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.